texte se situe juste avant la semaine de la Passion. Et on y suit l'enseignement que Jésus donne à ses disciples. Nous sommes donc au moment de l'entrée dans Jérusalem. L'enseignement est à propos des scribes et de leur hypocrisie. Ils se font voir, ils se montrent, ils sont quoi, dans l'apparence et non pas dans la vérité de leur être. Il leur faut les premières places. Mais plus encore, il faut qu'ils soient fiers et qu'on leur donne de l'importance. Ils sont absolument tout dans la vanité. L'Ecclésiaste disait de la vanité qu'elle était de la buée qui passe. Et ce faisant, ils dérogent à leur devoir de soutien aux veuves en les contraignant le plus souvent à faire des dons au trésor du temple alors qu'elles n'ont rien. Elles n'ont plus rien. Parce qu'être veuve à cette époque, c'était bien loin d'être une situation privilégiée. Si la veuve n'a pas de fils capable de la faire vivre, si elle n'a pas de beau-frère la prenant en charge, elle est vraiment peu de chose. Pas d'existence. Aucune reconnaissance, vivant à peine de la bonne volonté de la famille de son mari, ou encore peut-être de la sienne. Et de plus, il arrivait aux veuves de devoir donner le peu qu'elles avaient, qu'elles possédaient, au trésor du temple, et ça, c'était l'exigence des religieux plus scrupuleux. Pourtant, si on relit le Premier Testament avec attention, on peut voir que les principes énoncés dans le Premier Testament par les prophètes sont toujours les mêmes. Les veuves doivent être secourues, doivent être prises en charge par tous. Ce petit texte au sujet d'une veuve paraît anodin, mais il est placé juste entre ce rappel de la vanité des scribes et de leur pratique malhonnête, et puis cette discussion après entre ses disciples et Jésus à propos du temple lui-même. Et quand Jésus nous parle du temple, c'est pour en indiquer l'éphémère que représente toute construction, quelle qu'en soit la taille, quel que soit le lieu où elle est érigée, ou quel que soit le culte auquel elle est dédiée. Une belle construction, certes, oui, mais ce sont des pierres posées les unes sur les autres, ce ne sont que des pierres. Et ce temple est encore bien moins beau s'il est utilisé comme lieu de pouvoir et de puissance, une sorte de mainmise sur des fidèles obéissants et confiants par des religieux qui n'hésitent pas à frauder sur leur dos, alors que eux sont les pauvres. Frauder pour voler leur argent en imposant par exemple des sacrifices d'animaux inutiles, ou bien en trompant des veuves ignorantes et en leur demandant le peu d'héritage qu'elles possèdent pour les faire vivre eux, les hommes qui sont au service de Dieu, les tout premiers qui sont bien habillés, qui sont toujours en train de prier, en train de se faire voir. Vous le savez tous, ce temple va être détruit. Et si Marc parle du temple lui-même, quand il écrit ça, c'est juste un peu avant les années 70 ou juste un peu après les années 70. L'année 70, c'est l'année pendant laquelle le temple a été détruit, rasé. Il semble que Marc veuille dire autre chose dans ce texte, par les paroles de Jésus. Marc n'indique pas forcément cette destruction pierre par pierre du temple rasé, mais il indique plutôt la destruction du système religieux juif de l'époque. Et il ramène le sacré qui était attribué à la pierre au seul sacré qui existe, celui de l'être, celui de la vie de l'homme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ce que Paul écrit déjà aux Corinthiens, bien avant la rédaction de l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Jean, un peu plus tard, Jésus dira, lui, « Le temple va être détruit, mais il sera reconstruit en 3 jours. » Et l'évangéliste, au cas où nous n'aurions pas compris, nous dit, quand il dit cette phrase, il parlait de son corps, il parlait de sa personne, et il indiquait déjà la résurrection. Pour Marc, il n'en est pas tout à fait de même. Pour lui, le système religieux du temple ne peut perdurer, comme s'il était devenu pervers. Et pour les Jésus de Marc, cette destruction du système religieux du temple ne peut être qu'à condition que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations. Il le faut, je vous l'ai lu, il faut que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations. Je n'avais jamais remarqué, avant de travailler ce texte pour cette prédication, que Marc annonçait ainsi, du moins Jésus dans Marc, annonçait ainsi un universalisme que l'on ne connaissait pas trop dans les évangiles. Et Jésus affirme que cette annonce, que le choix de mettre ses pas derrière les siens, n'est jamais facile et ne sera jamais facile pour quiconque. Ce choix est un choix, en effet, qui est un lieu de rupture dans les familles. Les liens pourtant que l'on pense les plus serrés sont tranchés. L'un suivant Jésus, l'autre le combattant, parfois cela ira même jusqu'à la délation, jusqu'à la mort du frère ou du père ou du fils. Les guerres de religion de l'histoire nous donnent maints exemples de ceci. Sans aller jusqu'aux guerres de religion aujourd'hui, nous pouvons entendre dans nos familles même, parfois, le mépris de certains par rapport à ceux qui affirment leur foi. Il faut tenir, et c'est seulement à ce prix-là qui peut aller jusqu'à perdre sa vie que l'Évangile sera annoncé à tous. Et quand Jésus nous dit ceci, on voit déjà, parce qu'on a lu les Évangiles, qu'il nous parle de lui aussi. Il faut tenir et ne pas craindre d'être seul, car nous ne le sommes pas, jamais. Justement, en ces cas-là, nous ne le sommes pas. La force de Dieu accompagne, soutient et donne de dire les mots qu'il faut en ces temps de haine manifestée parce que l'on a décidé de suivre Christ. Et les mots qu'il faut ne seront pas forcément des mots qui vont nous sauver notre vie, mais qui vont nous sauver aux yeux de Dieu, oui, ça certes, tenir et être sauvé de Dieu, il ne peut en être autrement. Que veut dire être sauvé de Dieu dans cette phrase? Je ne suis pas de celles ou de ceux qui vous affirmeront qu'être sauvé équivaut à une récompense au paradis, après la mort, parce que ça, je n'en sais strictement rien. Mais je pense plutôt que par ce salut-là sera dévoilé le sens de la vie trouvée, d'une vie vécue différemment, tout en ouverture aux frères, aimer son prochain comme soi-même, aimer de cet amour de Dieu que l'on reçoit, que l'on perçoit dans sa vie. Et ceci, afin que l'Évangile soit annoncé, ne s'arrête jamais de transformer les vies de ceux qui l'ont reçu, qu'ils ne passent pas, comme dit Jésus au sujet de ses paroles, qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli, alors que la création ou la nature elle-même partent, elles, dans l'oubli et vont toujours à leur fin. Alors, de tous ces textes que je vous ai lus et de ce préambule, je vais dégager trois pistes essentielles de réflexion théologique que je vais développer très brièvement en gardant surtout la troisième pour notre méditation. Bien sûr, il y a la piste de l'argent. Cette veuve n'a rien et elle donne son essentiel. Le si peu qu'elle possède, le texte nous dit même, elle donne toute sa vie. Bios, c'est la vie. En fait, cela signifie qu'il ne lui reste plus qu'une chose à faire après avoir mis son argent dans le tronc, c'est de partir et peut-être de mourir de faim. Elle donne pour Dieu quand elle donne. C'est du moins ce que lui affirme le système religieux. Elle donne pour que l'on vienne en aide aux nécessiteux, mais elle ne pense pas qu'elle fait partie des nécessiteux, et personne du temple va venir lui donner en secours. Vous voyez ce système du temple un peu pervers. Elle est en entière confiance en Dieu. Dans le regard de Dieu sur elle, elle attend la bonté, cette force que Dieu peut lui donner. C'est tout ce qui lui reste quand elle va donner tout ce qui lui reste d'argent au tronc. Alors cela pose la question du don. Il est si facile de ne donner que ce qui n'empêche pas de vivre, ce qui ne prive pas de manger, de se loger, de se vêtir ou de faire des cadeaux à ses enfants. Il est si facile de faire l'aumône aux pauvres lorsque l'on sait que cela ne nous prive pas trop. Donner le plus, le trop-plein de notre avoir, bien plus que le nécessaire, donner de son abondance, dit Jésus. Alors attention, je vais peut-être vous choquer, mais je vais nous prendre, nous, en exemple. Regardez un petit peu nos manières d'annoncer les choses. Vous allez peut-être être choqués et vexés. Je ne sais pas, mais j'y vais. Je parle de nous et de nos rapports ambivalents avec l'argent. Si vous êtes imposable, dit-on généralement à tous les paroissiens, en donnant 90 euros, vous n'aurez donné que 30 euros puisque vous pourrez récupérer 60 euros par des impôts que vous ne paierez pas. Ne voyez-vous pas dans cette formulation, pour ceux qui paient des impôts, bien évidemment, une forme d'hypocrisie? Et oui, dans votre cœur, vous allez être fier d'avoir donné 90 euros à l'Église, alors que de votre compte en banque ne sera réellement sorti que 30 euros, puisque vous aurez récupéré de l'autre main ce que vous avez donné de la première main. Si vous êtes honnête et que vous voulez réellement donner 90 euros à l'Église, c'est-à-dire donner 90 euros de votre porte-monnaie à l'Église, faites donc un chèque de 270 euros. À ce moment-là, vous aurez récupéré 180 euros par les impôts. Mais là, vous aurez réellement donné, venant de votre porte-monnaie à l'Église, la somme que vous souhaitiez. Je vous prie de m'excuser de ces petits calculs, c'est sans doute un vieux métier qui était prof de maths dans le temps qui m'a fait réagir ainsi. Et je peux dire que je fais partie, comme vous, de toutes les personnes qui sont dans cette logique-là. Et en lisant ce texte de Jésus, de la phrase de Jésus, j'imagine que nous sommes bien plus sur le chemin des donateurs de notre abondance que sur celui des veuves donnant dans leur pénurie toute leur vie. Ça, c'était ma première vision, premier point à relever. Ensuite, je vous ai dit que cette femme possédait, tout ce qui lui possédait, c'était sa confiance en Dieu. Donc, je vais prendre la question de la confiance en Dieu et de la foi. Elle donne, cette femme, pour Dieu. C'est ce que lui affirme le système religieux. Elle donne pour que l'on vienne en aide aux nécessiteux. Quant à elle, je vous l'ai dit, c'est pratiquement un suicide qu'elle vit. Car on peut se demander ce qu'elle va devenir sa vie sans plus rien pour manger, ni pour acheter à manger. Elle est dans une entière confiance à Dieu, c'est tout ce qui lui reste. Et je suis heureuse de voir que celui qui voit cela, qui voit tout ce qu'elle a donné, qui voit le suicide dans lequel elle se lance par cette confiance, c'est Dieu lui-même par les yeux de Jésus. Et malheureusement, je constate que le système religieux de l'époque ne remarque pas ça, puisqu'il n'arrête pas de lui demander de donner et de donner. Et cette confiance est rappelée par Jésus aux disciples. Me suivre demande de tenir, de témoigner sans peur, sans fuir devant les menaces de torture et de mort, de témoigner pour vos tertiaires à cause de moi, dit-il, de témoigner de l'essentiel de la bonne nouvelle que je vous ai proclamée, de toute la bonne nouvelle que je vous ai proclamée. Donc, je laisserai à votre méditation cette notion de confiance en Dieu et de foi, pour qu'elle vous habite chaque fois que vous pouvez être dans le doute, dans la difficulté, dans la tristesse. Ayez toujours confiance en Dieu. Le regard de Jésus, le regard de Dieu sont sur vous et vous regardent et vous soutiennent. En dernier lieu, je pense que cette banale histoire de veuve racontée par Jésus, quelque part, c'est la sienne qu'il est en train de nous raconter, son histoire à lui. La sienne, annonciatrice de la destruction du temple. Pas seulement, donc, je vous ai dit, la terrible année 70, où le temple fut rasé par les Romains, mais plutôt la destruction, la fin des rites et du fonctionnement du temple à l'époque. Et Marc l'a évoqué à d'autres endroits, par exemple à la fin de l'Évangile. Souvenez-vous, dans les versets 37 et 39 du chapitre 15, à la mort de Jésus. Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut vers jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là, en face de lui, dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Le voile qui se déchire, le mot grec qui utilise le mot « déchirer », c'est le mot qui, chez nous, donne le mot « schisme ». Vous voyez bien qu'il y a des choix à faire, des coupures. En effet, ce voile qui était la partie qui séparait la partie sacrée, cachée, inabordable du temple, le lieu de rencontre avec Dieu, mais seulement avec les prêtres. Avec Christ, il n'y a plus rien de caché. Avec Christ, le voile est déchiré. Il n'y a plus besoin à l'homme de laisser seuls les prêtres entrer dans le lieu de rencontre avec Dieu. Dieu rencontre chacune, chacun. Il rencontre tous. Avez-vous aussi noté, et c'est souvent noté, que le premier dans l'évangile de Marc a confessé sa foi à la mort de Jésus, eh bien c'est un centurion romain. En ce jour où Jésus meurt, la bonne nouvelle vient de déborder les frontières d'Israël. Cette banale histoire de veuve, racontée par Jésus quelque part chez la sienne, car il vient tout donner. Il vient donner son bios, sa vie, il vient l'offrir pour la vie des autres. Il va lui aussi donner sa vie, mais lui, il va la donner pour que ce système du temple, tel qu'il est vécu, avec ses sacrifices d'animaux qui ne servent à rien, avec ses abus des prêtres et l'hypocrisie des scribes, soit enfin retourné, converti vers le seul vrai lien qu'on a à Dieu, celui de la prière et celui du service du frère. Il ne meurt pas en sacrifice expiatoire pour nous relever de nos péchés. Ça, c'est la théologie qui est développée dans l'évangile de Matthieu. Mais chez Marc, Jésus est là comme un don en l'espérance d'une conversion du temple et de son service. Combien de fois Dieu, par la bouche des prophètes, n'a-t-il pas dit que tout ceci, les sacrifices d'animaux, tous ces rites, l'écœuraient, et que les seuls sacrifices qui lui étaient agréables étaient ceux venant du cœur de l'homme. Et ici, l'exemple est frappant, c'est celui de la veuve. Oui, il est là, lui, Jésus, qui n'a rien que sa vie à offrir. Il est là avec sa pauvreté d'homme itinérant, entouré d'hommes et de femmes si divers, sans puissance destructrice, donnant uniquement des messages de paix, d'espérance, d'amour et de vie. Il vient, comme la veuve, offrir sa vie au trésor du temple, pour que ce trésor du temple soit enfin un vrai trésor. Mais vous le savez tous, et la fin de l'évangile nous le dit, le temple ne va pas vouloir de ce don, va rejeter ce don, malgré la valeur qu'il a, Et cette valeur, c'est une immense valeur, puisque c'est une vie, bios. Il vient offrir sa vie, la perdre, pour ce temple qui va bientôt être écroulé. Mais ne vous inquiétez pas, ce temple, ce n'était que des pierres. Ce don est pour des pierres vivantes, que sont les hommes, que vous tous, nous sommes, en qui est l'espérance de Dieu, son espérance à lui. Il est là, Jésus, comme cette veuve, démunie, qui finalement n'attend plus qu'une chose, qu'un seul don, celui venant de Dieu, car seul Dieu sait donner la vie en vérité. Il sait aussi, Jésus, que chacun de nous tient la vie uniquement par Dieu. Et Jésus nous l'a dit, c'est pour ça qu'en 3 jours, c'est pour ça que la résurrection est là, il nous attend, il nous espère dans cette vie. Amen.